9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue. Nous allons parler d'un serial killer aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois une grande figure de l'investigation qui ferait passer Élise Lucet pour une stagiaire à la rédaction de BFM. C'est Roger Langlais, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et journaliste d'investigation, spécialiste des lobbies. Si, si, c'est une spécialité. Et vous publiez le livre noir de l'amiante aux éditions de l'Archipel. Vous avez un parcours atypique, vous. Comme on dit aujourd'hui.
Parce que je viens du lumpenprolétariat, des couches qui sont en partie dans la rue aujourd'hui.
Voilà. Voilà, c'est ça. La légende dit que c'est en regardant une émission de télévision un jour sur un monsieur qui s'appelle Gaston Bachelard, qui était philosophe et autodidacte, que vous avez eu, vous aussi, l'envie de passer votre agrègue de philo.
Alors, oui, c'est un peu rapide, mais...
Non, mais j'ai...
C'est la légende.
C'est la légende.
Voilà. J'avais 15 ans quand j'ai découvert Bachelard à la télé. Mais je crois que j'ai surtout découvert le désir de ma mère, dans lequel je suis rentré finalement, dans ce désir de ma mère, de voir son fils devenir auteur, philosophe. Mmh. Elle était fascinée par les philosophes.
Bon.
Et je crois que je lui dois beaucoup de ce point de vue.
Voilà. Bon, vous avez travaillé longtemps au PTT.
Bachelard, oui, il a travaillé longtemps au PTT.
Et ensuite, vous avez... comment est-ce que vous êtes passé de la philosophie au journalisme ?
En fait, vous savez, en philosophie, quand on fait ses études aujourd'hui, ou même quand on publie des bouquins, on parle beaucoup du pouvoir politique, des meilleures méthodes de gouvernement, tout ça, on disserte beaucoup là-dessus, et en réalité, on n'y connaît rien du tout. C'est là, voilà. On a une approche purement théorique, et plus ou moins historique, mais très peu fouillée. Et en réalité, donc, on ne connaît rien à la réalité de la décision politique et des acteurs qui interviennent dans ce processus décisionnel. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé.
C'est comme ça que vous avez été amené à vous intéresser aux lobbies, en fait, finalement.
Exactement, parce que les lobbies interviennent dans la chaîne de décision des politiques. On n'en parle jamais, mais c'est la réalité du pouvoir, ça. Et les grands lobbies financiers et industriels interviennent, en fait, en permanence. Et les politiques... On est très loin avec les décideurs politiques du capitaine dans le navire, vous voyez, qui, voilà. Non, il y a 36 capitaines, même 36 capitaines, en réalité, et le politique, évidemment, se plie, malheureusement, aux pressions et aux interventions, comme on l'a vu avec Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement à cause de la présence systématique d'un lobbyiste, là, représentant...
les chasseurs.
Pas seulement les chasseurs, parce que ce lobbyiste, Coste, Monsieur Coste, est aussi le lobbyiste de l'industrie de l'armement. Savoir.
D'accord. En tout cas, vous êtes intéressé au lobby de l'eau, beaucoup au lobby pharmaceutique. Lobby, en anglais, ça veut dire entrée. D'ailleurs, on l'oublie souvent, c'est le vestibule.
Voilà, c'est le couloir.
Ouais, c'est l'entrée.
Le couloir, c'est-à-dire que c'est l'endroit discret, on va dire. Bon, en réalité, les lobbyistes, auprès des députés et des sénateurs, pour parler des ministres, ils sont là comme chez eux. Ils entrent dans les bureaux presque sans frapper. Hein. La porte leur est systématiquement ouverte. Et ils sont là tout le temps, auprès à la fois des assistants parlementaires, qui sont souvent rémunérés discrètement par ces lobbyistes, pour faire quelques amendements bien placés. Parfois sans le dire aux députés, j'ai vu quelques assistants parfois se mettre un peu en colère leurs députés, parce qu'ils avaient introduit quelques phrases en plus dans la loi, vous voyez, sans trop le dire.
Parce que le but d'un lobbyiste, faut le rappeler, c'est quand même d'agir sur la loi.
C'est d'agir à la fois sur le projet de loi ou sur la proposition de loi. C'est d'agir pour rajouter des articles, ce qu'on appelle des cavaliers discrets dans les lois, mais qui vont permettre de légaliser certaines activités ou de déréguler la réglementation. Il intervient en fait, le lobbyiste, tout au long de la chaîne de décision qui aboutit à une loi, à l'application d'une politique et même sur les décrets d'application de la loi. C'est tout leur métier, c'est vraiment l'influence.
Votre livre est sous-titré 50 000 procès gagnés, mais le scandale continue. C'est vrai que c'est un chiffre qu'on n'a pas souvent et dont on parle peu, finalement, le chiffre des personnes qui ont fait des procès depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on est tellement discret sur ces procès?
Bon, on est discret parce que les procès, c'est contagieux. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui a la même maladie, le même type d'exposition à l'amiante gagner son procès, ben on a envie de faire la même chose. Alors, c'est vrai que les autorités politiques sont discrètes là-dessus. Et puis, parce que on n'y pense pas tellement. Il faut approcher les avocats et faire le compte pour s'apercevoir du nombre de procès gagnés. C'est historique d'ailleurs, il n'y a pas de mouvement dans l'histoire de France où on ait eu autant de procès gagnés par des victimes d'un produit toxique. Alors 50 000 procès gagnés, c'est des procès au civil, beaucoup, par exemple devant les prud'hommes, devant le Fonds d'indemnisation nationale, devant des tribunaux d'affaires sociales. Et c'est aussi au pénal, ça on ne dit pas assez. Il y a des entrepreneurs qui sont condamnés à des années de prison, souvent avec sursis, hein, mais qui sont quand même condamnés au pénal ou à des amendes pour avoir exposé leurs salariés ou certains usagers aux fibres d'amiante sans les prévenir.
Voilà, ce sont les motifs de condamnation. Vous revenez donc sur ce dossier de l'amiante qui est sorti des radars de l'information. Pourquoi est-ce que vous revenez dessus? C'est pas tourné la page de l'amiante?
Alors elle est loin d'être tournée. On fabrique encore aujourd'hui les victimes de demain. Hein. Alors on est à peu près à 3000 victimes par an en France.
Ce sont les chiffres officiels qui sont communiqués. Ça fait l'équivalent des morts sur la route.
C'est à peu près l'équivalent. On n'est pas loin effectivement de la mortalité routière. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a encore des autorités politiques qui traitent le dossier de l'amiante et des expositions d'aujourd'hui, donc les victimes de demain, avec une légèreté inouïe. Et je pense que l'absence d'un grand procès national, c'est-à-dire d'un procès qui concerne les ministres qui ont été mis en cause dans cette histoire, les ministres du Travail et les ministres de la Santé en particulier, les grands experts qui ont été corrompus par l'industrie de l'amiante, il faut le dire, il faut appeler un chat au comité permanent amiante qui a géré le dossier au profit des industriels pendant des années, en disant qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait maîtriser le risque, etc. Ces gens-là, tant qu'ils ne seront pas condamnés avec les politiques responsables, puisque les politiques étaient représentées au sein du CPA, eh bien, le dossier sera traité encore avec la même légèreté et on fabrique aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. On fabrique encore aujourd'hui les victimes, donc tous les jours, il y a des gens qui sont exposés alors qu'une bonne politique de prévention permettrait de limiter considérablement.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont exposés contrairement à ce qu'on nous dit. Ouais, c'était pas il y a 20 ans puisque statutairement, l'amiante est interdit en France depuis plus de 20 ans.
Hein. Depuis le 1er janvier 1997.
Voilà, donc, c'est-à-dire interdit de production et d'utilisation.
Alors, interdit de production, interdit de commercialisation, interdit même de rétrocession, c'est-à-dire que je vois la campagne, par exemple, très souvent, on a des agriculteurs qui minimisent le danger, ils ne se rendent pas compte. Hein, y a une banalisation, les plaques en fibre au ciment, il y en a au-dessus de leur toit, dans leur garage, dans leur hangar et tout. Et ils finissent par tous croire que seuls les gens très exposés sont potentiellement victimes de l'amiante. Et moi, j'en vois même...
C'est-à-dire les travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs de l'amiante. Hein.
Voilà, ils s'imaginent que c'est vraiment les travailleurs de l'amiante qui sont les victimes. Pas du tout, pas du tout. On a des chiffres de mortalité importants dans la population générale qui n'a jamais même été exposée dans le cadre professionnel. Hein. Donc c'est vraiment à la maison ou dans le cadre des loisirs, etc. Et je vois des agriculteurs qui disent « Oh là là, vous avez des plaques de fibro-ciment là, dans sur votre garage, dans votre jardin, tout ça. Vous me les donnez, moi, ça va me servir de remblais pour les sentiers, etc. » Et du coup, on en a partout, dans la campagne, dans les chemins forestiers, etc., pour qu'ils puissent passer plus facilement avec leur tracteur. Enfin, vous voyez, il y a une banalisation, on va dire, du risque. C'est la nouvelle normalité, pour y dire, voilà, française. Hein, c'est vivre auprès de l'amiante en sous-estimant complètement les effets secondaires, comme on le fait d'ailleurs pour certains médicaments, par exemple.
Pour plein de choses, puisque c'est votre métier, finalement, de débusquer tous ces scandales. On va commencer par un peu d'étymologie. De temps en temps, ça fait du bien. Amiante, nom masculin, on dit aussi
asbeste. Alors, les anglo-saxons disent plutôt asbeste, nous, on dit amiante. En fait, j'ai recensé une quarantaine de termes différents historiquement. Mmh. Enfin, on va pas les citer là.
Mais historiquement, ça veut dire que c'est connu depuis longtemps déjà.
Alors, c'est connu depuis très longtemps. L'amiante depuis la haute antiquité, même. Voilà.
Puisque les Égyptiens l'utilisaient.
Voilà, on s'en servait notamment pour mettre le corps du défunt et on le brûlait. L'amiante incombustible, donc ne fondait pas au feu et on pouvait conserver comme ça les cendres du défunt. Charlemagne s'amusait avec sa nappe en amiante. Il avait une nappe en amiante. Alors à la fin du repas, pour épater les invités, il jetait la nappe au feu et elle ressortait indemne, toute blanche, avec toutes les miettes qui avaient été brûlées. Enfin bon, voilà. Alors il y avait quelques usages comme ça qui étaient quand même très sporadiques, on va dire, voilà, qui étaient quand même assez rares. L'industrialisation de l'amiante a vraiment commencé à partir de la fin du 19e siècle et s'est développée considérablement au cours du 20e siècle. On en a mis partout.
Alors je vais demander l'étymologie pour expliquer aux gens ce que ça veut dire, comme ça on comprendra.
Alors c'est incorruptible en fait. C'est un des dossiers où il y a eu le plus de corruption, mais l'amiante veut dire étymologiquement incorruptible, c'est-à-dire indestructible en réalité. Voilà.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se détruit pas.
Ça se détruit
pas. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et ça me permet de rappeler, parce que dans le livre, je fais la liste de tous les gestes à éviter et les précautions à prendre. Il y en a beaucoup. Et là, ça me fait penser au fait que beaucoup de gens, hélas, à la campagne ou en banlieue, croient que c'est malin de mettre au feu les plaques de fibro-ciment. Ils voient ça, effectivement, se réduire en cendres, sauf que les milliards de fibres d'amiante qui montent dans l'air chaud, dans les fumées chaudes, ne se voient pas, donc, et pourtant l'amiante reste indestructible au feu. Surtout à ces feux-là, on n'a pas là des torches à plasma, enfin une technologie qui permet de les détruire. Et donc ces fibres montent dans l'air et elles retombent doucement et gentiment dans le jardin et dans celui des voisins. Voyez.
C'est comme Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à votre jardin. Hein.
Voilà, et les fibres d'amiante qui se désagrègent, enfin les unes des autres, qui se séparent en montant justement grâce au feu et en montant dans l'air, il faut savoir qu'elles sont tellement fines que la majorité des fibres, on la voit pas. C'est-à-dire que je rappelle toujours qu'une fibre d'amiante, le diamètre de la fibre est d'ordre nanométrique, c'est-à-dire 200, 300, 400 nanomètres. C'est invisible à l'œil nu. On les respire, on les avale, et c'est indestructible dans l'organisme. Et c'est pour ça qu'au fil des années, les cancers vont se développer.
Donc c'est pour ça que le scandale continue.
Et c'est pour ça que c'est le scandale continue, parce que c'est un danger assez invisible. Les fibres qui rentrent dans vos poumons, vous ne les voyez pas. Celles que vous voyez, à la limite, c'est les moins dangereuses, puisqu'elles sont là et elles y restent. Il suffit de se déplacer, hein, un simple mouvement dans une pièce où il y a de l'amiante. Des milliards de fibres remontent dans les courants d'air qui sont provoqués par le mouvement, et vous les respirez et vous les avalez.
Comment ce minéral d'avenir est-il devenu l'ennemi public numéro un? Parce que c'est quand même fou, on marche sur la tête parfois.
Alors, parce que justement, les industriels ont des représentants. Tous les industriels, il faut dire de la chimie en général, comme de l'industrie pharmaceutique. Et comme on va dire tous les industriels qui produisent des substances toxiques, ont des représentants dans les cercles ministériels, dans les commissions de fixation des normes à ne pas dépasser, etc. Et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, en réalité.
D'ailleurs, ce concept de normes à ne pas dépasser, on y reviendra là-dessus, mais est-ce que c'est finalement un concept qu'on doit retenir? Parce que c'est presque une diversion, ce concept de normes à ne pas dépasser.
C'est une tricherie, c'est une illusion qui est produite. La plupart des normes dites sanitaires, qui sont fixées par les commissions, où les experts, en fait, sont rémunérés la plupart du temps par les industriels. Et quand ils ne le sont pas, ce sont des représentants des ministres qui, en fait, sont extrêmement complaisants avec les experts rémunérés par les industriels et qui fixent, en fait, des normes qui servent à rassurer la population. Avec l'amiante, c'est vraiment le cas, puisque l'INSERM a rappelé qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel l'amiante n'est pas cancérigène.
Et ça vous racontait qu'à un moment donné, au Québec, c'est le moyen qu'ils avaient trouvé pour faire diversion.
Dans tous les pays.
Voilà, là où ça aurait dû être interdit, on dit « Ah non, mais il y a un seuil à ne pas dépasser ».
C'est ça. Et cette notion de seuil ou de dose journalière admissible, dose hebdomadaire admissible, etc., quand on regarde la courbe de resserrement, on va dire, de ces normes, un enfant de 10 ans, d'ailleurs, on lui monte sur un tableau, il devine ce que ça va devenir. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ça va être interdit. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les seuils de plus en plus. Mais ça permet aux industriels de gagner du temps et donc de l'argent, hein, de maintenir le marché le plus longtemps possible. Et parfois même de le réintroduire. Je rappelle qu'aux États-Unis, Donald Trump vient de réautoriser l'amiante.
On va en parler. L'amiante de Poutine. Voilà. Mais donc, ça c'est quelque chose à vous dire, c'est que dès que vous voyez que sur un produit, il y a une norme à ne pas dépasser, dites-vous qu'il vaut mieux pas l'utiliser, quoi. C'est presque simple, c'est évident, ça part du bon sens.
C'est une norme technique, en fait, qu'on appelle norme sanitaire, vous voyez. Mais en fait, c'est vraiment de la rhétorique produite par les industriels.
Bien, c'est passionnant. Roger Langlais est notre invité aujourd'hui. Alors le livre, c'est le livre noir de l'amiante, 50 000 procès gagnés et le scandale, mais le scandale continue aux éditions de l'Archipel jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on parle de l'amiante ce matin avec mon invité Roger Langlais. Vous publiez le livre noir de l'amiante aux éditions de l'Archipel. C'est votre deuxième livre sur le sujet. Le premier est paru il y a un peu plus de 20 ans maintenant, juste avant l'application de la rentrée en vigueur de la fameuse norme qui introduit en France le 1er janvier 1997 l'utilisation, la commercialisation de l'amiante. Hein.
C'était effectivement 7 mois avant l'interdiction de l'amiante. Et donc ce livre, je citais dedans le nom des responsables, précisément. Je reconstituais toute la chaîne de décision et tout. Et comme me l'ont confié ensuite certains ministres et même le directeur général de la Santé, il m'a dit, votre livre nous a vraiment empêché de dormir parce que vous citez les noms. Vous savez, d'habitude, on dit toujours le système et tout ça. Ouais. Tout le monde est un peu... Non. Dès que vous citez les noms des responsables, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et qu'ils auraient dû faire, etc. Là, tout le monde prend peur au plus haut niveau.
Bah, c'est le rôle d'un responsable, c'est d'accepter et de gérer, d'encaisser cette responsabilité si on n'est pas responsable.
Oui, mais j'aime bien diluer la responsabilité pour ne pas être accusé si ça tourne mal.
Bon, en l'occurrence, là, tout le monde a laissé passer le train. En tout cas, puisque vous dites que les signaux d'alerte, on ne les a pas vus arriver en 90, hein, on les a vus dès les années 70. Il y a des études anglaises qui sont très strictes, alors que déjà, on savait qu'il y avait des maladies de l'amiante, mais il y a des études en Angleterre qui, dès les années 70, disent que c'est cancérogène.
Oui, en fait, la toxicité de l'amiante, de façon générale, elle est démontrée dès le début du XXe siècle. Hein. Dès 1906, on a une première étude d'un inspecteur du travail qui constate qu'il y a beaucoup de morts dans les usines d'amiante. Qui fait un rapport, bon, eh bien, ça va devenir quelque chose de très simple, le rapport va finir au fond d'un placard, lui il va avoir une promotion et va être muté. Bon, comme ça. Et c'est la corruption basique.
Hein. La mutation, promotion, sanction.
Voilà. Et par contre, la cancérogénicité de l'amiante, le fait que c'est un cancérogène, eh bien, ça, à partir des années 60, voilà, c'est démontré. Donc à partir des années 60, normalement, on aurait dû avoir une attitude radicale face à l'amiante et en réalité l'interdire, empêcher qu'on en mette partout. Et là, c'est devenu le tabou absolu.
Mais ça, dites-vous, écrivez-vous, les industriels de l'amiante le savaient.
Les industriels de l'amiante le savaient, puisqu'on les voit même agir auprès des autorités pour limiter la réglementation qui va être mise en place. Et puis très vite, on les voit agir aussi pour empêcher qu'il y ait une interdiction, et notamment grâce aux notions de seuil à ne pas dépasser. Donc cette illusion, je rappelle que derrière chaque notion, chaque limite ou norme de seuil à ne pas dépasser, il y a en fait des sacrifices humains. Et en général,
pour... Là, j'ai pas compris, là.
Alors, des sacrifices humains, c'est-à-dire que dans les commissions d'expertise où on fixe le seuil à ne pas dépasser, en fait, on inclut des milliers de morts qui vont être causées par le produit. Je dis bien des milliers de morts pour tant de millions de personnes exposées. Vous voyez, tant de millions de personnes exposées au risque. Dessus, il va y avoir un pourcentage de morts qui sont parfaitement intégrés, dont on parle jamais. Et ce seuil permet de sauver, en quelque sorte, de maintenir le marché économique, hein, le produit dans la commercialisation. Et c'est tout à fait ordinaire. Il faut savoir que, voilà, les commissions d'expertise, en fait, décident d'intégrer un sacrifice humain très important.
Vous posez la question de la légitimité des experts, d'ailleurs, dans votre, dans votre livre. Donc l'OMS, pour être clair, par an, évalue dans le monde. Hein. C'est un chiffre comme ça qui est donné autour de 100 000, le nombre de morts de l'amiante.
Dans le monde, chaque année, selon l'OMS, donc c'est un rapport 2006, ça date, hein, ouais, ça date déjà, mais bon, voilà. Il y a une réactualisation, mais en gros, c'est aujourd'hui autour de 110 000 morts par an dans le monde. C'est déjà énorme. Mais les experts disent qu'on pourrait rajouter 40 à 50% en réalité si on intègre tous les cancers. Parce que, comme on va le voir, il y a beaucoup d'autres cancers que les cancers du poumon.
Ça fait sur 10 ans, ça fait déjà 1 million. Donc c'est vrai qu'il faut aussi...
Alors même, disons, 1 à 2 millions en réalité.
Vous dites aujourd'hui, de l'amiante, il y en a partout. Vous exagérez, non?
Alors, non, malheureusement pas. Et en retravaillant le dossier, je me suis aperçu, donc entre-temps, qu'il y avait plein de produits ou d'articles qui contiennent de l'amiante que j'ignorais même avoir travaillé pendant des années sur le sujet. Et notamment, on a très peu regardé la question des revêtements routiers. On en avait parlé un petit peu, mais on n'était pas rentré dans les détails. Et beaucoup de bitume ou de revêtements routiers contiennent de l'amiante. Ça permettait d'avoir un revêtement à la fois indestructible, malgré le passage des véhicules, assez souple, résistant aux variations de température, à la météorologie, enfin aux intempéries, etc.
C'est pour ça que c'était utilisé, parce que c'est quand même plein de vertus.
Alors, oui, c'est pour ça que ça a été un succès colossal, l'amiante dans les années, donc, surtout 50, 60, après la guerre, en fait, hein, là, on en a vraiment mis partout. Le revêtement routier, le problème que ça pose, c'est que les véhicules qui passent dessus, quand même, désagrègent le revêtement, hein, il y a de l'usure. Ces milliards de petites fibres ou fragments de fibres sont, drainés par les pluies, rentrent dans le sol, atteignent les nappes phréatiques. Et donc, on a beaucoup d'eau en bouteille aujourd'hui de sources ou minérales qui contiennent des fibres d'amiante.
Et parce que, oui, à cause de l'eau, voilà, qui a bougé. Donc
l'eau qui draine les fibres, hein, tout simplement.
Donc, idem pour l'eau du robinet, dites-vous.
Et alors, l'eau du robinet, c'est encore un autre problème. Éventuellement, les nappes sont déjà contaminées, là où on tire l'eau. Hein. Mais les canalisations en amiante-ciment, à travers lesquelles on amène l'eau jusqu'au robinet, hein, jusqu'aux maisons, elles-mêmes, donc en amiante-ciment, se désagrègent, elles frottent les unes contre les autres, notamment, et puis il y a le passage de l'eau, plus ou moins calcaire, etc. Enfin, bref, je passe les détails techniques. Et on a une eau au robinet de nombreux Français qui contient énormément d'amiante. Or, on sait aujourd'hui très clairement que l'amiante avalée, à travers des boissons ou des aliments, parce qu'il y a aussi des aliments, l'amiante avalée cause des cancers digestifs, donc cancer de l'enveloppe de l'intestin, et puis après ça voyage, les fibres d'amiante sont tellement fines.
Heureusement, Roger Langlais, qu'il y a la norme à ne pas dépasser les jours, parce que là vous me rassurez, parce que sinon je me couche et je bois plus rien, je mange plus rien.
Alors faut garder l'instinct de survie, hein, mais enfin je signale aussi qu'il y a aujourd'hui bien documenté le cancer des ovaires, dû aux fibres d'amiante qu'on avale, le cancer des testicules, et oui. Cancer du péricarde aussi, l'enveloppe du cœur. Et on retrouve aujourd'hui même des fibres d'amiante dans des tumeurs cérébrales. Hein, c'est-à-dire jusque dans le cerveau, ça voyage partout.
Pour ceux qui croient à la force des recherches, il y a des recherches. On est passé à côté d'une étude qui s'appelle Rich in Force, qui a testé 4599 objets du quotidien et 1000 mélanges de produits vendus. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce genre de...
En fait, voilà, au total, on a l'agence de sécurité contre les produits chimiques qui a analysé environ 6000 produits différents, produits et articles, et a mis en évidence.
Donc, c'était en 2018. De consommation courante, hein. Donc, je l'ai cité parce que c'est la plus récente que j'ai vue. Donc.
Alors voilà, c'est 2018, hein, ça a été rendu public aux douaniers, on va dire, au service de contrôle des douanes, en les rappelant un peu à l'ordre parce qu'ils ne regardaient pas vraiment l'amiante. Donc ça passait plus facilement. Sur 6000 produits à peu près, on a 14%, hein, 13,6 exactement, 14% des produits qui contiennent de l'amiante, qui rentrent dans les frontières de l'Union européenne. Bon. Alors on en a dans de nombreux articles tels que des thermos, des radiateurs, des vélos, des jouets pour enfants.
Les crayons de couleur qui viennent de Chine, je balance pas, mais c'est ce que j'ai vu. C'est voilà. Pour les parents qui offrent des cadeaux à leurs enfants.
Crayons de couleur, des jouets. On a dans pas mal de pays, on a retrouvé donc des boîtes d'apprentis détectives, enfin les jeux de, en gros une sorte de, enfin, je ne vais pas citer de marque, mais de...
Mais il y a même beaucoup de produits qui sont en provenance de la Chine, il faut le dire.
Alors beaucoup viennent d'Asie.
Ou d'Asie, hein, en général.
Et la majorité, c'est la Chine, quand même. Il faut savoir que dans ces régions du monde, l'amiante est encore autorisée, ou plus ou moins autorisée, c'est là où c'est très complexe. Il y a des pays qui interdisent certaines variétés d'amiante, mais pas d'autres, certains usages et pas d'autres, comme aux États-Unis d'ailleurs. Où on a trop dit que l'amiante avait été interdit. En fait, l'amiante a été proscrit à cause des procès, en fait, que les Américains... des actions de groupe, donc, contre des grands producteurs d'amiante. Des assureurs ont été ruinés, parce que les victimes gagnent leur procès aux États-Unis beaucoup plus facilement et à un haut niveau. Donc, résultat, tous les industriels se sont repliés. On est quand même, chaque année aux États-Unis, à peu près 40 000 morts à cause de l'amiante. On ne parle pas beaucoup de ça. Et Donald Trump se permet quand même de réautoriser l'amiante.
Et parce qu'il dit que c'est pas dangereux.
Alors il dit qu'une fois que c'est mis en place,
c'est pas dangereux.
Si on a les précautions, c'est pas dangereux. Or, toute l'histoire de l'amiante montre que c'est tout au contraire. Une fois que c'est mis en place, les années passent, on s'en méfie de moins en moins, et puis on revoit arriver un électricien qui vient percer, ou simplement la désagrégation des matériaux, ou la démolition des travaux à l'intérieur, etc. Et tout le monde se retrouve exposé en sous-estimant complètement le risque. Donc là, Trump est en train de mentir. Et aux États-Unis, quand même, le traumatisme de l'amiante est très, très important. Donc c'est quand même une folie politique de faire ça. Ce qui fait que d'ailleurs, on a les premiers États américains qui ont commencé à porter plainte contre Donald Trump pour mise en danger d'autrui. Et vraisemblablement, on ne voit pas comment il pourrait maintenir sa décision Donc il va certainement reculer, mais il y a un deal avec Poutine puisque...
Voilà, faut nous expliquer parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce que Poutine a réussi à lui refourguer l'amiante. C'est parce qu'il parle pas la même langue et qu'il a dit da-da-da ou qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a sûrement quelque chose comme ça. Il y a de l'affairisme derrière, hein, l'affairisme économique, politique et peut-être aussi des aides dans le cadre de la campagne qui a permis à Trump de se faire élire. Hein. On retrouve encore le dossier russe. Mais n'empêche que non seulement Trump viendrait autoriser l'amiante, mais en décidant de faire de la Russie le principal exportateur vers les États-Unis de cet amiante. Les ressources en amiante aujourd'hui pour la Russie, c'est très important puisque c'est le principal producteur au monde avec la Chine. Voilà.
C'est ça qu'il faut comprendre. Alors on a parlé de tous ces produits, mais il y a d'autres produits du quotidien, dites-vous. Alors on a parlé de l'eau. Alors pour ceux qui boivent de la bière.
Alors
bière, vin. Alors vin. Alors le vin français, c'est toujours un problème. Je croyais qu'on n'utilisait plus les filtres à amiante, hein, ce qui concernait l'huile également.
Alors en France, donc l'amiante a été interdit pour tous les produits. Hein. C'est-à-dire on n'a plus le droit de vendre ou de céder même des produits contenant de l'amiante. Bon. Pour passer les détails, parce qu'il y a eu des procès dont personne n'a parlé, entre les cavistes utilisant les filtres en amiante pour les vins ou pour les bières.
Ça, c'était les années quoi, 70? C'était jusque dans les années 70, 80?
Malheureusement, c'est jusque dans les années 90. Bon. Donc, on en a bu et rebu. Hein. Alors, pour la bière, on va dire, en France, c'est fini. Dans l'Union européenne, officiellement, c'est terminé. Sauf qu'il y a des bières d'importation, hein, qui arrivent d'Asie, notamment, de tout un tas de pays où c'est encore autorisé, l'amiante. Et ainsi que pour d'autres boissons, hein, même des sodas, des jus de fruits et tout ça. On a utilisé tout ça en France. Hein. On a bu, on a fait boire nos enfants des jus de fruits, des sodas, etc., amiantés. C'est-à-dire les filtres en amiante qui servaient à retenir la pulpe du fruit, hein, et à nous présenter des produits sans
pulpe,
sans résidus. Ouais. Eh bien, malheureusement, il en reste aujourd'hui sur le marché toujours en vente, alors que c'est interdit de vendre des produits amiantés depuis 97.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours dans les grandes surfaces en France?
Alors, dans les grandes surfaces en France et dans les caves viticoles, on a des vins millésimés des années 70, 80, 90, qui contiennent jusqu'à des centaines de millions de fibres par bouteille. Alors, on pourrait dire, bon, c'est le vin des riches, hein, donc...
C'est-à-dire qu'à partir de 70, effectivement, oui...
C'est très cher. Ouais. Voilà, c'est devenu très cher.
Même les vins... Je me méfie quand on utilise le vin des riches ou les trucs des riches, aujourd'hui, c'est déposé.
Oui, alors, n'empêche que pour se payer les bouteilles des années 80-90 en vin, et donc des grands vins, hein, des vins réputés qui sont concernés, pas tous, mais certains. D'après mon enquête, je donne des détails dedans, mais certains grands vins affirment qu'ils n'ont jamais utilisé d'amiante. Bon, ce que j'aimerais, ce qu'il faudrait absolument, c'est que les pouvoirs publics fassent des contrôles des vins de ces années-là qui sont encore vendus dans les grandes enseignes, de façon à sanctionner la vente de ces produits interdits. Et dangereux, puisqu'on sait aujourd'hui que les cancers digestifs imputables à l'amiante sont bien documentés et nombreux.
Roger Langlais, notre invité. On écoute ce scandale de l'amiante qui continue. Le livre noir de l'amiante vient de sortir, hein, Roger Langlais. C'est aux éditions de l'Archipel.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beur FM.
Roger Langlais est notre invité aujourd'hui, journaliste d'investigation, vous êtes spécialiste des lobbies et vous publiez le livre noir de l'amiante aux éditions de l'Archipel. C'est la deuxième, version, édition, le livre complété d'une enquête que vous aviez commencé à mener il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Finalement, ce qui a changé peut-être dans la façon dont vous avez travaillé à l'époque, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et la facilité qu'on a à avoir une information. Aujourd'hui, ça vous aide, j'imagine, dans la façon dans laquelle vous travaillez.
Ça change tout. C'est-à-dire que comme je l'explique, pour avoir un document scientifique, on était capable, à l'époque, les journalistes d'investigation, traverser la France de sacrifier 3 jours pour avoir une étude. Aujourd'hui, on l'a en quelques minutes, cette étude.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un scandale comme celui de l'amiante, s'il s'était passé à une époque, quand ça commence à bouger en 70, s'il y avait eu Internet, ça aurait été beaucoup plus vite, quand même. On n'aurait pas attendu 20 ans. Hein.
Alors, pour la mobilisation de l'opinion publique, oui, pour les autorités, elles réagissent toujours. Les politiques continuent à réagir comme si on était, il y a 50 ans en arrière, comme si Internet et les réseaux sociaux n'étaient pas là. Ce qui explique beaucoup de choses, d'ailleurs, dans le fait d'être dépassé, pour dire les choses tout bêtement, le gouvernement actuel et Macron lui-même sont incapables de s'inscrire dans une modernité qui correspond aux moyens de communication et de mobilisation d'information d'aujourd'hui. Donc, et là, ils n'ont pas compris que, par exemple, ça devient tout à fait possible de revenir à une démocratie directe, de voter toutes les semaines, une fois par semaine. Il n'y a aucun problème. Vous interrogez n'importe qui à partir de l'ordinateur. Mmh. Nous pouvons retrouver les conditions d'Athènes, l'époque de la démocratie directe. Et voter sur tout un tas d'aspects. Et donc là, il y a un déphasage du politique qui est tout à fait étonnant. En santé publique, on retrouve le même déphasage aujourd'hui, mais encore plus fort, parce qu'effectivement, on accède aux banques de données aujourd'hui médicales. On consulte, c'est très simple.
C'est-à-dire qu'on peut les croiser, les chiffres. Aujourd'hui, on peut dire, voilà ce qui est dû à l'exposition de l'amiante. Ça serait simple d'obtenir des chiffres plus factuel.
On peut faire une veille sanitaire scientifique aujourd'hui. Chaque citoyen, j'en connais qui sont par exemple à la retraite, qui ont beaucoup de temps ou qui sont chômeurs d'ailleurs et tout, qui ont un niveau d'expertise sur certains dossiers sanitaires, mais supérieur à tous les experts officiels qui sont forcément sur plein de dossiers à la fois. Donc on a une démocratisation de l'accès au savoir là, scientifique, dans le domaine de la santé publique en particulier, qui est extraordinaire, qui fait que dans l'histoire, je dirais, on est à un tournant inimaginable, conceptuellement, intellectuellement.
Contrairement à une idée reçue, hein, les victimes des maladies de l'amiante ne sont pas seulement d'anciens travailleurs, comme on l'a cru longtemps. Il y a aussi tous ceux qui ont été touchés, les populations dans le cadre de contaminations non professionnelles. Donc personne n'est à l'abri. Peut-être ce qui a changé aussi la perception des maladies de l'amiante en France, hein, notamment, c'est l'histoire de Jussieu.
Alors, Jussieu a été un détonateur. Henri Pézerat, le grand lanceur d'alerte toxicologue qui travaillait à Jussieu, s'y est intéressé justement parce qu'il avait des fibres qui tombaient sous son microscope. Hein, donc il a commencé à se questionner dessus, etc. Il a été vraiment l'expert, le grand expert en France qui a permis de sensibiliser l'opinion publique. Il était même interdit dans les commissions d'expertise et tout ça, on n'en voulait plus. Hein, les ministres ne voulaient surtout pas ce gars-là. N'empêche qu'il a réussi à sensibiliser les journalistes, les associations. Le comité anti-amiante de Jussieu s'est constitué aussi sur ses conseils.
Et eux, ils ont diffusé un maximum d'informations.
Ils ont été extrêmement actifs. Auparavant, d'ailleurs, les syndicats de Jussieu, dans les années 70, avaient déjà contacté des usines d'amiante pour dire aux ouvriers et aux ouvrières: retirez-vous de là, ne demandez pas un aménagement, etc. Tout ça sert à rien, vous tombez comme des mouches, hein. Et c'est l'amiante, c'est pas le lait que vous buvez le matin comme vous fait croire le médecin du travail, parce que on en était là, hein. Vous buvez du lait? Bon. Voilà. Le mensonge éhonté des médecins du travail a été déterminant dans ce mensonge énorme, et on le retrouve dans toutes les nations du monde, où on a le même type de comité encore aujourd'hui, auquel les gouvernements délèguent en fait la responsabilité de la gestion du dossier, des normes, etc.
Bon, aujourd'hui, l'amiante, écrivez-vous, continue à passer les frontières, alors qu'en France, il est interdit, il rentre dans des camions, les personnes qui sont censées contrôler ne sont pas assez nombreuses, de toute façon.
Alors, c'est extraordinaire, la DGCCRF, par exemple, qui est la Direction Générale de la Concurrence, de la Répression des Fraudes, etc., qui annonce le travail dans chaque pays d'Europe, en France notamment, on a divisé le personnel au moment même de la mondialisation des échanges et de la libre circulation des marchandises, ce qui fait que je compare aujourd'hui les frontières à un immense but dans lequel il y aurait un gardien, hein, et des millions de ballons sont tirés en même temps. C'est le nombre des containers qui rentrent en permanence.
Donc ils peuvent pas contrôler. Donc ça rentre.
Ils sont complètement dépassés, et il est quand même assez amusant entre guillemets de voir que les autorités européennes viennent de rappeler ces services de contrôle à l'ordre en leur disant: attendez, il y a une banque de données RAPEX qui est même d'accès public, hein, on peut RAPEX, vous y allez, vous allez voir tout un tas de produits qui sont identifiés RAPEX, RAPEX, des produits qui sont identifiés auxquels les douaniers normalement doivent faire attention, hein, parce que c'est des produits qu'on a déjà identifiés comme contenant de l'amiante qui passent les frontières, parmi lesquels je vous disais bouteilles thermos, petits radiateurs, tout un tas de
alors produits à base de talc toujours.
Et alors, très souvent, effectivement, dans le talc, on a de l'amiante.
On se demande pourquoi, mais bon.
C'est dans les mêmes gisements, ouais. En fait. L'amiante est souvent mélangée au
talc. La peau des saucissons aussi.
Alors, on peut retrouver dans certaines charcuteries quand on utilise le talc, effectivement. Donc là, même en France, partout, là, il n'y a pas besoin d'importation. Mm-hmm. La France est un gros producteur de talc, d'ailleurs. Et donc là, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que le talc, encore moins même dans les produits pharmaceutiques, devrait plus être utilisé.
Oui, on en a arrosé les bébés, hein.
Oui, et d'ailleurs, on l'utilise encore beaucoup, notamment aussi dans les cosmétiques. Je vous parlais des boîtes de détectives tout à l'heure, ces petits mélanges de talc, justement, dans lesquels il y a de l'amiante, où les enfants jouent donc à faire la recherche d'empreintes. Hein, donc on met ça sur ses doigts, etc. Ça part dans la bouche. Enfin bon, ça fait partie aujourd'hui des apports, effectivement, contaminants de l'amiante.
Vous évoquez un phénomène alors, dont on ne parle pas du tout, ce sont les dépôts d'amiante illégaux. C'est fréquent ça ou c'est peu fréquent ?
C'est très fréquent. Il suffit de vivre à la campagne ou d'aller le week-end dans les forêts et tout ça, on en découvre aujourd'hui. C'est jeté sur les terrains de jeu, sur les chemins forestiers, en bordure de forêts ou de champs. Donc les dépôts sauvages d'amiante, souvent faits par des petites entreprises elles-mêmes, ou des filiales de grosses entreprises, qui se débarrassent donc à bon compte de l'amiante plutôt que d'aller le déposer dans des endroits où il va falloir payer, des endroits sécurisés. Certains s'en débarrassent dans des décharges d'ordures ménagères, donc c'est interdit normalement, et sauf dérogation, ce qui arrive. Il n'y a pas de collecte, c'est-à-dire les pouvoirs publics nationaux n'ont toujours pas mis en place une collecte sécurisée systématique chez les particuliers, donc on voit les gens...
Donc c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça vers quoi il faudrait tendre.
Voilà, on voit les gens sinon mettre les plaques d'amiante, ils les cassent pour les faire rentrer dans la voiture, et puis en voiture, en famille, allez hop, on va jusqu'à la décharge pour... c'est hallucinant, c'est de laisser les gens s'exposer aux risques comme ça, et les sanctions aussi sont trop faibles.
Je rappelle qu'on était les gamins, sanctions, on jouait dans les ruines, il y a des plaques d'amiante...
Alors, on s'est exposé joyeusement à l'amiante. Certains villages même ont vécu, moi j'en connais dans le nord en particulier, à côté de montagnes d'amiante, de déchets d'amiante. Et là, évidemment, en termes d'épidémiologie, ça parle, hein, comme dans les régions françaises où certaines terres sont amiantifères, hélas. Où là, les travaux publics, le moindre chantier qui s'ouvre de route... Alors je rappelle que d'ailleurs, en France... Systématiquement aujourd'hui, dès que des travaux publics doivent être faits sur une route dont le revêtement contient de l'amiante, ce qui arrive très souvent, on doit donc ouvrir des chantiers hyper sécurisés et remplacer le revêtement routier par un nouveau revêtement ne contenant pas de l'amiante. Et là, la population avoisinante doit se montrer très vigilante. Parce que là, si le citoyen ne se montre pas vigilant, on revient toujours à ce problème... Eh bien, les autorités préfèrent passer les choses sous silence. Et je vois même des collectivités locales dont les élus prennent des risques avec leurs propres agents municipaux à leur faire un peu en cachette, on va dire, des travaux qui sinon coûteraient cher à la commune. Donc là, il faut vraiment mettre en place une politique nationale. C'est pas possible autrement.
Pour ceux qui nous écoutent là globalement, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil pratique déjà, ce qu'il faut absolument pas, enfin, éviter de faire, ou organiser, et les précautions à prendre.
Alors, les précautions à prendre, je dirais la première, puisqu'on a tous, en fait, de l'amiante chez soi, et notamment sous la forme de fibre au ciment, donc ces fameuses plaques qui recouvrent le garage, ou parfois même qui est sous le toit, qu'on a mis pour isoler un peu la maison.
C'était l'isolant, ça a été l'isolant fantastique pendant des années. Hein.
Voilà. Alors, c'est surtout de ne pas chercher à corrompre, par exemple, les diagnostiqueurs de la présence de matériaux amiantés dans la maison. Hélas, beaucoup de propriétaires le font, et les diagnostiqueurs l'acceptent, ils sont très corruptibles. Ça, c'est une réalité du marché, voilà. Beaucoup ont ouvert des petites entreprises comme ça, pour faire beaucoup d'argent, tout simplement, le plus vite possible. Et là, je parle même pas des contrôleurs, parce qu'il y a des petits labos aujourd'hui qui se montent, des petites sociétés, pour contrôler... le taux d'amiante contenu dans l'air en début de travaux, et ensuite le respect pendant les travaux, et ensuite la restitution du chantier aux occupants, à vos habitants, et qui se font corrompre sur tout le long de la ligne. J'ai moi-même des connaissances dans mon village de gens qui ont ouvert de telles entreprises, en relation d'ailleurs avec des entrepreneurs de désamiantage, et en famille, eh bien, on fait des travaux, on se fait contrôler par les cousins, etc., les parents, et tout ça dans une ambiance de corruption qui est tellement dégoûtante que j'en ai vu certains pleurer quand ils me faisaient cet aveu-là. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé ce boulot-là, avec une formation d'ailleurs assez pointue au départ, et toute cette formation, ça tient pas face à la concurrence corrompue, donc on est obligé d'y passer aussi. Et cette corruption, c'est pas seulement des propriétaires privés, c'est aussi des propriétaires publics qui veulent faire baisser les coûts. Et donc, on prend pas toutes les précautions au cours du désamiantage, on fait ça. Bon, alors déjà, beaucoup plus de contrôle sur tous les chantiers de désamiantage. Un inventaire public, ça devrait être obligatoire. Que tout le monde sache où il y a de l'amiante, dans quel bâtiment, etc., quel commissariat.
Ça paraît évident, j'ai envie de vous dire. Bah oui.
Ça paraît évident, mais là, ouais. On est loin. Et puis, évidemment, plus d'inspecteurs du travail. C'est pareil, là aussi, on les réduit.
Alors là, franchement.
Alors même que, voilà.
Inspecteurs du travail, il faut en trouver un.
Alors, il y en a quand même, mais. Ouais. Voilà. Des sanctions aussi beaucoup plus dissuasives pour ceux qui trichent. Et surtout, au niveau individuel, bon, là, je ne vais pas redonner toute la liste des précautions que je donne dans le livre.
Non, mais c'est dans le livre.
C'est beaucoup, c'est dans le livre. Mais il y a des gestes élémentaires à pas pratiquer. Hein. Je vous disais tout à l'heure, ne pas brûler, surtout dans son jardin, les plaques de fibro-ciment. Ne pas les enterrer non plus, parce que dans X générations, les petits-enfants vont un jour ou l'autre faire des travaux de terrassement ou vouloir faire un potager ou je ne sais quoi. Et là, le loup dans la bergerie ressurgit à ce moment-là. Donc, essayer de se débarrasser dans les meilleures conditions possibles sans se substituer aux professionnels sécurisés qui doivent faire ce travail.
Parce que l'amiante est indestructible.
Et un point important, dans le cadre aussi du tourisme, il faut savoir que quand on décide d'aller en vacances avec ses enfants dans un pays, regardez d'abord si l'amiante y est toujours autorisée ou pas. Sinon, pendant 15 jours ou un mois, avec vos enfants, vous allez boire, respirer, avaler de l'amiante dans ces pays où c'est strictement n'importe quoi. C'est-à-dire comme en France dans les années 60-70, où les sources de contamination sont multiples.
Voilà, et puis dans votre livre, si vous voulez un petit peu comprendre comment l'industrie ou les lobbies des industries toxiques fonctionnent et comment ils interviennent dans des questions de santé publique et comment ils interagissent, vous le verrez, puisqu'effectivement là, ce sont les lobbies qui sont au boulot.
Il y a juste un point.
Vous avez encore une minute, Roger.
Allez, une minute.
Oui.
Il faut obtenir une interdiction mondiale de l'amiante. Sans interdiction mondiale, les produits vont continuer à rentrer chez nous.
À passer, oui.
Voilà. Et la France, là, le gouvernement français doit être actif sur cette question-là. Il faut se mobiliser en tant que citoyen là-dessus. Et notamment, ce que je vous disais sur le tourisme, refuser d'aller dans les pays, passer des vacances là où l'amiante reste autorisée, d'accord, ça veut dire que, à terme, la pression économique sera telle sur ces pays qu'ils vont interdire aussi l'amiante.
Bien, merci Roger Langlais, ça se lit comme un polar. Hein. Le livre noir de l'amiante aux éditions de l'Archipel. C'est un plaisir de vous écouter et de vous recevoir ce matin.
Merci.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.